citoyen au quotidien sur RCN
avec la CLCV de Malzéville-Saint-Max.
Sylvie Gruy, Christian Saquet.
Bonjour Sylvie.
Bonjour
Christian. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour chers auditeurs de RCN. C'est avec plaisir qu'on se retrouve pour une nouvelle émission de Citoyen au quotidien, l'émission de la consommation, du logement et du cadre de vie.
Alors aujourd'hui Sylvie, c'est toi qui commences.
Ouais, c'est moi qui commence.
Et tu vas nous parler de l'enquête alimentaire que la CLCV a réalisée.
Ouais, l'enquête alimentation qui date de fin mai 2024. Alors, c'est une enquête donc sur les beurres biscottes, crackers, pain de mie, galettes soufflées. 2019-2024, des recettes qui changent peu, des efforts encore nécessaires. Donc la CLCV à partir, alors quand je parle de la CLCV, quand il y a des enquêtes, c'est bien la CLCV nationale. Nous, localement, on n'a pas les moyens, je dirais, même
on
en bras.
On participe des fois à des enquêtes.
On participe quelquefois à des enquêtes quand il y a besoin de relever sur le terrain. Mais là, concernant cette enquête-là, c'est uniquement donc, une enquête qui a été réalisée par le secrétariat national. Parce que voilà, ils ont aussi, je dirais, aussi un peu plus de moyens financiers et des moyens humains. Donc, à partir des données Ocali disponibles pour 2019, la CLCV a étudié la composition et les emballages de 1740 produits de panification.
C'est quoi Ocali ?
Alors, okay, moi c'est pareil, hein. Ocali je ne connaissais pas, je connaissais Okapi mais pas Ocali. donc en fait c'est l'observatoire...
Okapi c'est au Congo, hein.
Voilà. Mais autre chose aussi Okapi, je ne sais plus ce que c'est. Non c'est Topkapi. donc c'est l'observatoire de l'alimentation. Donc ça a été créé par la loi numéro 2010-874 de modernisation de l'agriculture et de la pêche. Et ça a été confirmé, cet observatoire, par la loi dite EGalim du 30 octobre 2018.
Ouais, donc, elle a fait parler la loi EGalim.
La loi EGalim, hein. Ouais, dernièrement, même avec les manifestations aussi des agriculteurs. Donc cet observatoire a pour mission d'exercer un suivi global de l'offre alimentaire des produits transformés présents sur le marché français. Hein, c'est-à-dire, ils n'étudient pas du tout, par exemple, des produits bruts tels que, du blé, des fruits, etc. Non, c'est vraiment les produits transformés présents sur le marché français en mesurant l'évolution de la qualité nutritionnelle, la composition nutritionnelle et les informations donc sur les étiquetages.
D'accord.
Voilà. Alors, pour 148 références sur 1740, alors de 1740, voilà, c'est énorme hein, quand même. C'était un relevé réalisé en janvier 2024 en ligne et dans 12 enseignes. Ça, c'est le travail qui a été fait par la CLCV hein, sur les 148 références. Donc, relevé réalisé en ligne, mais également dans 12 enseignes. C'est pour ça que je disais, il faut aussi quand même un peu de bras pour le faire. Hein.
On a participé, nous, à ça.
Pas sur celle-là.
Pas sur celle-là ?
Je crois pas, non. Mais Aldi, Auchan, Biocop, Carrefour, Franprix, pardon, Intermarché, La Vie Claire, Leclerc, Lidl, Monoprix, Naturalia et Système U. Donc la CLCV a étudié l'évolution des recettes entre 2019 et 2024 pour voir si des choses avaient changé en positif ou en négatif.
Oui, tu as raison. On a participé, mais c'était une question de prix.
Voilà, c'était des relevés de prix.
Oui.
C'est vrai que, par exemple, quand il y a des relevés de prix, bah forcément, il faut aller sur le terrain. Et on ne peut pas, même si on trouve maintenant beaucoup de choses sur Internet, on ne trouve pas tout. Et en tout cas, on ne trouve pas non plus ce qui est sur les petites enseignes, etc. Donc les résultats, une qualité nutritionnelle variable dans une même famille de produits. Pour la majorité des produits, la CLCV a constaté que les recettes ne se valent pas au sein d'une même famille. C'est le cas par exemple pour les biscottes nature, crackers de table, les pains grillés, toast complet, dont les Nutri-Score varient de A à E. Donc c'est quand même, c'est énorme. Et A à E, c'est du meilleur au pire. J'allais dire au plus pire. Non, du meilleur au pire, E étant le pire de ce qu'on peut trouver. Quoi. Donc c'est
tu,
quand même...
tu pourras peut-être rappeler ce qu'est le Nutri-Score, parce que là, tu évoques le Nutri-Score.
Ouais. Donc j'en ai parlé il y a longtemps.
Oui, bien sûr, il y a longtemps que tu en parles.
Longtemps, mais... fort longtemps, c'était avant le Covid, alors vous vous rendez compte. Donc le Nutri-Score, c'est un logo qui apparaît. Alors quand c'est pas obligatoire. C'est ça le problème. Le Nutri-Score n'est pas obligatoire, ce qui fait qu'on ne le trouve pas partout. C'est un logo qui doit se trouver quand il est présent sur la façade avant du produit. La façade avant, c'est là où on va mettre, par exemple, pour un paquet de biscottes, les deux biscottes, le nom, la marque, etc. Et donc, il y aura le Nutri-Score généralement en bas. Donc, c'est un outil essentiel aux consommateurs pour comparer des produits similaires et faire un choix éclairé. C'est-à-dire qu'entre deux paquets de biscottes, il vaut mieux choisir le paquet de biscottes qui est classé plutôt vers A plutôt que vers
oui,
E.
Oui, bien sûr.
Hein. Et c'est pareil pour tous les autres aliments. Alors, ça ne veut pas dire que forcément au goût, ce sera meilleur. C'est vraiment uniquement le côté nutritionnel, quoi, le sel, etc. Aujourd'hui, donc, on ne peut pas faire ce choix éclairé car le Nutri-Score n'est affiché que sur 57% de notre échantillon.
D'accord, oui, c'est vraiment ça limite.
Ah ouais, ouais. Non, mais c'est fou parce que le Nutri-Score, comme je le disais, c'est vraiment, enfin, c'est vieux, quoi. Hein. Ce qui a été aussi remarqué, c'est que les qualités nutritionnelles et présence d'additifs, il faut faire attention, il ne faut pas se fier au marketing santé.
D'accord.
Alors, c'est vrai qu'on va trouver souvent sur ce genre de produits, on va avoir, mais pareil, on l'a déjà évoqué sur d'autres
oui,
enquêtes,
en
d'autres
parlé
produits,
ça.
Mais on va trouver réduit en sucre. Bah, c'est pas parce que c'est réduit en sucre que c'est forcément encore bon.
Bah non.
Parce que s'il y a encore trop de sucre, c'est toujours trop de sucre. Pauvre en sel, sans additifs. De nombreux produits affichent des mentions qui leur confèrent une image santé. On se dit, si c'est réduit en sucre, c'est mieux. Mais certains produits, comme les biscottes complètes, les crackers de table, les pains grillés ou les galettes soufflées, peuvent avoir des profils nutritionnels médiocres. Sur les 51 références étudiées donc, par la CLCV, qui affichent donc une allégation positive, c'est réduit, etc., 67% donc, de ces 51 références ont un Nutri-Score entre C et E. Donc c'est quand même fou quand même. Hein. Et 69% présentent des additifs et assimilés. On le redit, le Nutri-Score ne tient pas compte de s'il y a des additifs ou pas dans les recettes. Hein. Donc le consommateur doit rester vigilant et vérifier la recette, la liste plutôt des ingrédients. Plus une liste est longue, plus ça veut dire qu'il y a des choses qui sont ajoutées. Il suffit par exemple de se dire, je ne sais pas si on achète un jour un plat complet, si on voit, mettons même des lasagnes. Des lasagnes, c'est facile, hein, c'est des pâtes, c'est de la viande, ça sera éventuellement de la sauce, il peut y avoir des épices, des choses comme ça. Mais quand on commence à avoir une liste pour ces lasagnes qui n'en finit plus, il faut se dire que c'est pas bien, quoi, parce que c'est souvent des additifs, des E quelque chose, et ça, c'est pas bon pour notre santé, quoi.
Mais alors, dans cette enquête-là, est-ce qu'il y a des bonnes surprises?
Alors, il y a de bonnes surprises, mais encore quand même beaucoup d'efforts à réaliser. Donc, l'étude de la CLCV montre que la majorité des recettes n'ont pas changé depuis 2019. On pourrait se dire qu'ils ont pu bosser quand même. En 5 ans, quand même, ils auraient pu faire quelque chose. Eh ben non. La majorité des recettes n'a pas bougé, n'a pas changé. Donc, et pourtant, plusieurs recettes pourraient être revues en réduisant leur quantité de sucre et de sel encore trop importante. En témoignent 25% de produits qui ont amélioré leurs recettes, dont 16% avec des évolutions suffisamment importantes pour améliorer leur Nutri-Score.
En effet.
Donc, s'il y en a qui peuvent le faire, ils peuvent tous le faire.
Bah oui, bien sûr.
Et c'est comme pour d'autres trucs. Hein. Quelquefois, il manque la volonté. S'il n'y a pas la volonté, on ne peut pas. Donc, parmi les bonnes surprises, il y a la suppression de l'huile de palme, donc 34% des produits qui ont contenu en 2019. Et la réduction du nombre d'additifs dans 36% des familles qui en contenaient le plus en 2019. Donc, par exemple, les brioches nature et au chocolat ou pépites de chocolat, les pains grillés, toast, pain de mie, croissant et pain au chocolat. Donc l'huile de palme, c'est quand même... moi, je trouve que c'est bien qu'on supprime cette huile de palme. Alors, quand elle est consommée sur place, là où elle est produite, pour moi, ça ne me pose pas
différent.
De problème. Qu'on déforeste... au niveau de l'Asie, etc., qu'on déforeste des forêts entières pour y mettre de l'huile de palme, pas de l'huile de palme, des palmiers qui vont produire après de l'huile de palme. Et même s'il y a un lobbying quand même de l'huile de palme qui est fort, hein, parce qu'on retrouve des publicités sur Facebook, par exemple, pour vanter les mérites de l'huile de palme et expliquer que déforester, finalement, c'est pas plus mal que ça.
Oui, mais
c'est pas un mauvais truc.
En fait, ce que les gens savent pas non plus aussi, c'est que l'huile de palme, on le retrouve dans des savons, dans des Ça sert à tout. Hein.
Ça sert à tout, puis ça sert surtout aussi pour faire baisser le prix du côté...
Évidemment, parce que...
De la grande distribution, enfin pas de la grande distribution, des industriels. Parce que c'est quand elle arrive chez nous, l'huile de palme, c'est l'huile qui est la moins chère.
Bien sûr.
Donc en fait, quand les industriels de l'agroalimentation se servent d'huile de palme, c'est pas parce que c'est bon, c'est pas parce que si, c'est pas parce que c'est ça, c'est parce que c'est le moins cher. Donc en fait, il faut toujours avoir à l'esprit qu'ils cherchent toujours façon à ce que ça coûte moins cher.
Parce que l'huile de palme sur place, dans l'alimentation, c'est super.
Voilà.
Mais c'est pas de l'huile de palme qu'on a maintenant là, ici, quoi.
Hein? Mmh.
Ça n'a rien à voir.
Voilà, non. Alors, malgré tout, c'est bonnes surprises, donc c'est bonnes choses. Des évolutions, positives s'accompagnent parfois de dégradations. Par exemple, l'huile de palme a été supprimée et la quantité de sucre réduite dans des pains grillés au blé complet. Mais en même temps, la proportion de farine complète et donc de fibres a en même temps diminué de 70%.
Ben voilà.
Donc on gagne d'un côté, on perd de l'autre. Voilà. Donc peut-être que le pain grillé, eh ben, il vaut peut-être mieux aller se acheter son pain chez son boulanger et se griller son pain soi-même le matin.
Sûrement. Alors, devant ça, qu'est-ce que demande la CLCV ? Est-ce qu'elle fait des demandes particulières ?
Voilà. Donc, la CLCV donc, a étudié, a analysé, a fait des constats. Et la CLCV formule plusieurs demandes aux industriels et aux pouvoirs publics afin d'améliorer la qualité de l'offre de produits de panification. Donc, la CLCV demande aux industriels de s'engager dans la démarche du Nutri-Score, qui est, comme on l'a vu, encore trop faible.
Bien sûr.
Et de poursuivre les efforts de reformulation de recettes en réduisant au maximum l'utilisation d'additifs, en supprimant l'huile de palme et en réduisant autant que possible la qualité de sucre.
La quantité.
J'ai dit quoi, la qualité ?
La qualité, oui.
Ah, je me suis trompé. Donc la quantité, en réduisant autant que possible la quantité de sucre, de sel et d'acides gras saturés. La CLCV donc appelle également la Commission européenne à rendre obligatoire le Nutri-Score en Europe dans les meilleurs délais et les pouvoirs publics à renforcer la réglementation sur l'utilisation des allégations nutritionnelles et de santé. Donc on le voyait tout à l'heure, c'est les produits qui disent moins de sucre, etc. Et en interdisant donc leur apposition donc de ces allégations nutritionnelles sur les produits de profil nutritionnel médiocre, les Nutri-Score D et E. C'est vrai que c'est de... On ne comprend pas qu'un produit qui est Nutri-Score E puisse dire en même temps « Youpla boum, je suis le meilleur, j'ai réduit le sel ou j'ai réduit en sucre. »
D'accord. Alors là, ici, là, on évoque toute cette enquête de la CLCV. Et est-ce qu'on a la possibilité d'en savoir plus quoi ? Est-ce qu'il y a un document important ?
Oui. Alors déjà, cette enquête est relatée dans le dernier cadre de vie. Le cadre de vie qui a été qu'ont reçu donc tous nos adhérents début juin.
D'accord.
Cette enquête est relatée et puis on la retrouve comme à chaque fois qu'il y a une enquête CLCV, on la retrouve ainsi que son dossier de presse. Alors le dossier de presse fait 20 pages. Hein. Donc c'est disponible tout ça sur le site de la CLCV, donc www.clcv.org, à la rubrique alimentation.
Oui, c'est bien que tu dises, toi, www, parce que des fois, quand on dit 3W, il y a quelqu'un qui écrit 3.
Eh bien oui, mais moi, j'ai déjà vu ça. 3 à côté W, non. www.clcv.org, à la rubrique alimentation, enquête, et l'enquête s'appelle « Biscottes, crackers et pain de mie 2019-2024, des recettes qui changent peu, des efforts encore nécessaires ». Voilà, et puis bon, voilà, c'est toujours pareil, hein. Si quelqu'un veut cette enquête, n'arrive pas à la trouver, on peut aussi toujours nous contacter, on peut redonner, nous, le lien complet pour avoir accès à l'enquête sur Internet.
Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On fait une petite pause musicale ?
Bah, peut-être bien, oui, on va faire, parce qu'on arrive à l'été quand même, donc on va aller dans le sud avec Nino Ferrer.
C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse, et c'est joli. On dirait le sud.
le temps dure longtemps. Et la vie sûrement, plus d'un million d'années. Y'a plein d'enfants qui se roulent sur la pelouse. Y'a plein de chiens. Y'a même un chat, une tortue, des poissons rouges. Il ne manque rien. On dirait le sud. Le temps dure longtemps, et la vie sûrement, plus d'un million d'années, et toujours en été.
Citoyens au quotidien sur RCN.
Alors, nous revenons maintenant sur un sujet alors, qui a déjà été quelquefois évoqué au niveau de la qualité des logements, l'humidité, et là notamment la moisissure, par exemple, sur un mur. Comment, que ce soit un locataire, un propriétaire, comment doit-il réagir?
Alors, c'est vrai que c'est souvent qu'on a des locataires et même des propriétaires qui viennent nous voir et qui sont inquiets parce qu'il y a de la moisissure sur leur mur. C'est autant dans le logement social que dans les copropriétés, dans les maisons individuelles.
Mais ça touche tout le monde.
Hein, ça touche tout le monde. Et puis c'est partout, c'est dans toute la France. Dans toute la France et dans le monde.
Alors, oui, parce que je pense que le pays, où il fait très humide, ils doivent aussi en avoir.
Alors tous ces gens-là, bah, ils découvrent des taches vertes ou blanchâtres sur les murs de leur logement. Et s'il s'agit bien de moisissures, ben ils peuvent les nettoyer eux-mêmes. Avec quelques mesures de protection et des produits adaptés. Toutefois, une moisissure sur un mur, ce n'est qu'un symptôme d'un problème plus grave au sein du bâtiment.
C'est un peu c'est la partie visible de l'iceberg.
C'est quelque chose. Voilà.
C'est la partie visible de l'iceberg. Il y a généralement autre chose. Autre chose derrière.
La moisissure, c'est un champignon. Alors, comment lutter durablement contre le champignon, le développement des champignons dans l'habitat?
Tu vas nous le dire.
Hein. Il faut trouver les causes.
Trouver les causes, la cause ou les causes de l'apparition des moisissures.
Alors, comme nous le disons, c'est la conséquence d'un problème qui survient au sein du bâtiment. C'est par exemple une mauvaise ventilation, une fuite d'eau, des infiltrations, l'absence d'isolation thermique ou une isolation thermique mal conçue. Notamment en cas d'isolation par l'intérieur ou si la question de la ventilation du logement n'a pas été suffisamment étudiée. Voilà. On pose vraiment le...
Voilà, c'est vraiment... Il faut vraiment
quand
de façon chercher...
Quand quelqu'un vient nous voir et puis qui nous dit, voilà, j'ai des moisissures, j'ai des traces blanches, il faut chercher pourquoi et pas tout de suite, là, accuser le propriétaire ou le bailleur social.
Non, parce que c'est vrai, quand on a évoqué dans une autre émission, par exemple, l'utilisation d'un poêle à pétrole, c'est vrai que ça ramène de l'humidité et ça peut finir par générer aussi de la moisissure.
Exactement.
Donc voilà.
Alors, il y a l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 qui précise justement que le syndicat des copropriétaires est responsable des désordres causés dès qu'ils ont pour origine une partie commune.
C'est bien pour ça qu'il faut savoir, pour trouver le responsable, entre guillemets, la personne qui doit faire quelque chose, il faut trouver...
D'où l'importance de s'interroger
sur la cause.
La cause de la moisissure. Si elle résulte d'un problème d'infiltration de la façade, par exemple, il faudra se rapprocher du syndic de copropriété pour que la réalisation des travaux nécessaire soit mise à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale. Parce qu'il faut le mettre, ça.
Dans les copropriétés,
dans la convocation.
Voilà, et c'est moins rapide que, par exemple, même en location. Puisque, par exemple, en location, quand on est chez un bailleur social, là, du coup, il n'y a pas besoin d'Assemblée Générale.
Non. Mais alors, par contre, là, il faut que les locataires, la première chose qu'ils doivent faire, c'est...
Le signaler
au bailleur.
Au bailleur. Et je pense qu'il faut le répéter, le redire. Quand on a un problème d'importance, notamment comme ce problème-là, c'est pas par téléphone qu'on contacte son propriétaire, son bailleur social, etc. C'est pas non plus en envoyant un SMS si on a un 06 de qui que ce soit. À minima, c'est un mail et autrement, c'est un courrier.
On peut téléphoner. Mais quand on téléphone, il faut confirmer par courrier.
Qui est une trace écrite. Et puis en plus, alors, il faut quand même aussi que quand on envoie un mail ou quand on envoie un courrier, que ce soit suffisamment précis. Parce qu'il faut que ça puisse nous servir, il faut que ça puisse servir aussi au locataire comme preuve. S'il fait un courrier qui ne serait pas compréhensible ou quoi que ce soit, ça ne va pas lui servir à grand-chose.
Là, je vais être clair. Moi, dans les dossiers, très souvent... J'ai des courriers que des locataires ont envoyés au bailleur. Il n'y a même pas le destinataire sur le courrier.
Voilà.
Ils vont avoir mis sur l'enveloppe, effectivement, le destinataire, mais sur le courrier, ça ne sera pas marqué. Il n'y aura pas la date.
Voilà.
Et il n'y aura pas non plus, des fois, simplement leurs coordonnées à eux. Donc, un courrier, ça se fait avec, en haut à gauche, son nom, son prénom, et éventuellement le numéro
les références de la location.
Hein. Et puis aussi le numéro de téléphone et l'adresse mail quand ils en ont une. Il faut faire des courriers, mais des vrais courriers, quoi. Moi j'ai vu des chiffons, des fois je dis, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse.
C'est pas non plus que les locataires. Il y a quelquefois des propriétaires qui sont pas plus doués.
Mais
c'est vrai qu'il y a un minimum. Même pour un mail, il faut quand même aussi. Je dirais que les éléments à renseigner dans un mail sont les mêmes que dans un courrier.
Alors après, il faut aussi que dans le courrier, il soit bien expliqué ce qui a le problème.
Voilà. Alors pour dire, parce que c'est pareil, pour dire d'expliquer, il faut aussi chercher, enfin que les personnes essayent de faire quelque chose qui soit concis. C'est-à-dire il ne faut pas non plus en faire trois pages. Il faut vraiment aller droit au but aussi. De dire quel problème qui a été rencontré, est-ce qu'on attend de la partie
exactement,
qui est en face.
Exactement.
Parce que si on commence à partir dans des litanies ou à se dire, ben voilà, c'est pas juste, machin truc, etc., c'est pas ça le fond du problème. S'il y a une infiltration quelque part, c'est de dire qu'à tel endroit, dans telle pièce, il y a une infiltration, il y a tel ou tel problème. Depuis quelle date que c'est intervenu, il faut vraiment être carré sur ce qu'on écrit.
Exactement. Quoi. Donc, après, si le suite à avoir... Il faut téléphoner, on peut téléphoner. Et puis après, on fait le courrier en disant...
Voilà, pour confirmer.
Je confirme mon entretien téléphonique. Quelle date, et voilà pour le sujet. Si, après, effectivement, il n'y a pas de réaction, eh bien, il faut que les locataires viennent nous voir.
Voilà. On a une association qui défend les locataires.
Ben, c'est-à-dire qu'ils viennent nous voir, et après, bien... toi qui sièges dans les conseils de concertation locative, ouais. Tu peux en parler.
Voilà. Et puis après, de toute façon, on intervient également dans le pur dossier de litige, quoi.
Oui,
si le bailleur ne fait pas quoi que ce soit, ne donne pas de réponse, nous, on peut intervenir pour traiter le
là,
litige.
Là, on parle de logements sociaux, mais ça peut aussi être une copropriété où il y a des locataires. Hein,
voilà,
c'est la même chose.
Ou ça peut être même un locataire d'une maison...
Par contre, dans un locataire qui est dans une copropriété, c'est pas au syndic qu'il va s'adresser.
Voilà,
il s'adresse à son bailleur.
Il s'adresse à son propriétaire.
Alors maintenant, quels sont les impacts des moisissures sur la santé ?
Ça, c'est quand même pas neutre quand même l'impact de ces moisissures quoi.
Ouais, c'est important. Il faut savoir que les moisissures peuvent avoir des impacts néfastes sur la santé des occupants en provoquant des allergies, des irritations des voies respiratoires, des maux de tête, voire des infections pulmonaires et de l'asthme.
Voilà, ça peut être l'origine de d'asthme qui va devenir chronique après, quoi.
Alors, les populations les plus sensibles, comme les enfants, les personnes âgées ou celles atteintes de maladies respiratoires, sont particulièrement vulnérables aux effets de la moisissure sur la santé. Alors, comme je vous le disais précédemment, le nettoyage d'une moisissure sur un mur s'impose pour éviter sa propagation. Protégez vos mains, votre bouche et vos yeux et utilisez un produit ménager adapté selon la surface affectée et le niveau de prolifération des spores.
Alors, par exemple, toi, tu conseillerais quoi, par exemple, si les moisissures sont apparues sur de la tapisserie, enfin, du papier peint ? Est-ce que je nettoie mon papier peint ou est-ce que je retire mon papier peint, sachant si ça vient de derrière ? Est-ce que si je nettoie mon papier peint, ça va retirer la moisissure ou pas ?
Par expérience, la plupart du temps, quand il y a de la moisissure sur du papier peint...
Il y en a en dessous ?
Il y en a en dessous.
Voilà. Donc, il vaut mieux retirer...
Ben, on a besoin de voir dessous. Hein.
Non, mais c'était vraiment... Ce qu'on peut se dire, ça c'est ce que je vois, et puis on ne pense pas forcément à ce qui peut être en dessous. Quoi.
Alors, le vinaigre blanc et le bicarbonate de soude sont très efficaces, tout comme l'eau de Javel pour les surfaces non poreuses.
Ouais, d'accord.
Telles que le carrelage ou le verre. En revanche, elle est à éviter sur les murs peints ou en plâtre. Elle peut décolorer la peinture ou endommager le matériau. Donc ça répond à ta question d'une certaine façon.
Voilà, c'est vrai que même l'eau de Javel, c'est quand même assez corrosif, quoi.
Bah, c'est corrosif, oui, et puis sur le papier peint, ça n'a pas beaucoup de...
Ça fait pas grand-chose.
Non. Alors ?
Alors, pour prévenir justement, parce que là on était sur, j'ai des moisissures, qu'est-ce que je fais ? Et qu'est-ce que je dois faire justement pour éviter ? Éviter l'apparition de moisissures dans mon logement, que ce soit une maison ou que ce soit, par exemple, un appartement.
Alors, pour prévenir effectivement l'apparition de moisissures, il faut aérer son logement en ouvrant les fenêtres chaque matin pendant 10 minutes au moins, même en hiver, pour renouveler l'air intérieur. C'est ça.
Voilà.
Parce qu'un logement qui n'est pas aéré, il y aura un moment ou un autre de la moisissure. Parce que nous-mêmes,
Notre respiration fait de la...
On génère de l'humidité. Hein.
Voilà, notre respiration génère de l'humidité. Le fait aussi, par exemple, quand on prend notre douche, quand on fait à manger, ça génère aussi de l'humidité, quoi.
Alors, une bonne aération du logement représente l'une des mesures les plus efficaces pour évacuer l'excès d'humidité et prévenir l'apparition de moisissures sur les murs. Alors, il y a aussi le fait que quand il n'y a pas de VMC, il faut en installer une. Hein.
Mm-hmm.
La plupart du temps, dans les logements sociaux, il y a des VMC. Pas toujours.
Pas toujours. Moi, chez moi, j'en ai pas. Et pour autant, j'ai pas d'humidité non plus.
Exactement. La VMC, elle extrait l'air humide de l'intérieur et le remplace par de l'air frais extérieur.
Mm-hmm.
Ainsi, le niveau d'humidité du bâtiment diminue. Alors, quand il n'y a pas de VMC, il y a quand même des barrettes en haut.
Ouais.
Et il ne faut pas faire comme certaines personnes que je connais, qui bouchent
voilà, il faut pas
ces barrettes-là, ils mettent du coton. Et après, ils disent « Ah, c'est humide chez moi ».
Et en fait, c'est pareil, même dans les anciens appartements, HLM, il n'y avait donc pas de VMC, hein, les appartements qui ont été construits dans les années 60, mais il y a quand même des bouches d'aération dans les cuisines.
Il y a des prises d'air en bas.
Voilà, alors en bas, il y en a pour certains endroits en haut, la maison c'est en haut. En plus, à une époque, ils ont aussi décaissé les portes pour permettre à l'air de passer et circuler d'une pièce à une autre. D'autant plus quand on a, par exemple, des salles de bain qui sont borgnes. Il faut vraiment arriver à extraire au maximum. Et ça fonctionne quand même bien. Même s'il n'y a pas de VMC, ça peut fonctionner très bien. Mais comme tu le dis, il ne faut pas non plus boucher les petites bouches, les réglettes qu'il y a au-dessus des fenêtres.
Il ne faut pas les boucher, ça c'est fait pour.
Voilà.
Alors, il faut maintenir un environnement sec. Pour cela, si vraiment c'est trop humide, il faut utiliser un déshumidificateur pour les zones humides du domicile pour maintenir un taux d'humidité inférieur à 60%. Quand tu récupérais, tu te rappelles l'année dernière, la maison de ma mère, il y avait une telle humidité que j'ai été obligé d'acheter un déshumidificateur.
C'était une horreur.
Et ma mère mettait des bacs avec un produit, là. Elle partait au mois de novembre et elle revenait au mois d'avril. Et ces bacs-là qu'elle mettait un tout petit peu partout, c'est vrai que ça récupérait une humidité.
Oui. Mais ça restait comme dans la maison.
Mais
de toute façon,
elle restait là.
C'était pas, de toute façon, il n'y avait personne pour vider. Donc, à un moment donné, il faut les vider.
Il faut les vider.
Que ce soit des déshumidificateurs électriques ou alors avec des bacs, des cristaux ou des choses comme ça, il faut vider l'eau à un moment donné.
Alors, ça peut, dans une maison qui reste fermée comme ça pendant 4 mois, 5 mois ou même plus, si on met un déshumidificateur électrique, il y a un tuyau qu'on peut faire sortir, faire sortir, il peut fonctionner de façon...
autonome.
Oui, parce qu'on peut le calibrer pour, par exemple, travailler une heure, deux heures par jour. Il ne faut pas acheter n'importe quoi comme déshumidificateur. Je recommande aux gens qui voudraient faire ça de venir nous voir. Parce que là...
Il ne faut pas qu'ils viennent me voir moi, parce que je n'y connais rien.
Il y a un tas de déshumidificateurs, il ne faut pas acheter n'importe lesquels. Alors... Il faut assurer une bonne isolation des murs, des sols et des plafonds pour réduire la condensation, souvent responsable de moisissures. En copropriété, il est rare de trouver un seul logement souffrant de moisissures. Les lots situés en pignon, par exemple, peuvent être concernés, justifiant alors de procéder à l'isolation de certaines façades. Même chose pour les bâtiments sociaux.
Voilà, bâtiments sociaux, donc les logements HLM.
Alors, ce que je veux dire là, par là, c'est que quand il y a un pignon, eh bien, toutes les maisons, tous les logements qui sont sur ce pignon-là ont le même problème.
On rend même tous le même problème.
Alors, il y a autre chose qui est important. Et toi, ça va te faire sourire.
Ouais.
Il faut nettoyer régulièrement votre logement avec des produits adaptés. Pensez au plafond, aux angles de mur, aux plinthes et aux menuiseries.
Pourquoi ça doit me faire quelque chose à moi? Parce que je suis une femme et que c'est moi qui fais le ménage? Ça va pas.
Non, c'est parce que tu es un petit peu...
Je peux être des fois un peu monomaniaque.
Dans certaines régions, les moisissures apparaissent aussi à cause de la présence de salpêtre. Parce que les constructions, elles ont été faites avec du sable de mer.
C'était ça aussi qu'il y avait chez ta maman.
C'est très compliqué.
Il y avait du salpêtre.
Du salpêtre. Mais là, ce n'était pas à cause de la proximité de la mer. Mais en Bretagne, c'est très souvent le constat qu'on a pu faire. On a utilisé du sable de mer... Et effectivement, il y a du salpêtre. Et c'est une complication sans nom.
C'est compliqué donc à résoudre.
Alors, est-ce qu'on peut ajouter
ouais,
un message
moi, je voulais ajouter parce qu'il y a quand même des choses que je ne supporte plus d'entendre. Et c'est un message aux bailleurs, alors bailleurs sociaux y compris, également aux CCAS. Quand des personnes vont les trouver, recherchent un logement et en disant, voilà, moi j'ai de l'humidité, etc., je peux, voilà. Moi, je voudrais qu'on arrête de dire, et je peux, alors je ne citerai pas leur nom, mais par exemple, à une famille de 8 personnes, tous adultes, parce que les derniers enfants ont 16 ans, mais ils font 1m80 et ils sont carrés comme des joueurs de rugby. Cette famille qui est logée dans un appartement de type T5. T5, c'est 4 chambres. Quand on sait que les appartements des années 60 en HLM, c'est pas des chambres qui sont extra larges. Donc c'est voilà, c'est des chambres qui sont assez contraintes aussi au niveau des surfaces, de la superficie. Cet appartement qui a des moisissures. Et voilà ce qu'on leur dit. Faites moins de lessive. Ou alors, faites moins à manger. Moi, je ne peux juste...
C'est impensable, ça.
Je ne peux pas l'entendre. C'est pas possible. C'est pas possible qu'on aille dire ça à des personnes. Faites moins à manger, faites moins de lessive. Alors, ces familles ne sont déjà pas riches, sont mal logées, parce que là, la famille en question, c'est comme une famille dont les enfants souffrent d'asthme. Et en plus, ils devraient être sales et mal se nourrir. Où on va, quoi, c'est... Alors, oui, effectivement, on manque de très grandes typologies, hein, parce que là, ils sont 8 adultes. Sur la métropole, mais cela ne nous donne pas non plus le droit de dire n'importe quoi. Parce que là, la famille là se sent juste pas prise en considération. C'est de leur faire presque comprendre que c'est de leur faute. Et comme je discutais par exemple même avec une personne qui vient nous voir à la CLCV, je lui ai en plus, bah oui, même pour 8 personnes, effectivement, ils font à manger pour 8, bah c'est plus que pour 2. Quand ils font la vaisselle, ben ils n'ont pas de la vaisselle parce qu'ils n'ont pas les moyens non plus. Puis, dans leur appartement, c'est une petite cuisine, donc on ne met pas la vaisselle dans la cuisine, c'est pas possible. Et ben donc, du coup, on se retrouve à faire de la vaisselle, beaucoup de vaisselle. Et puis, beaucoup de vaisselle, ça veut dire aussi beaucoup de torchons pour essuyer la vaisselle, hein, quand même. Donc, ça rajoute de la lessive. Et puis, une autre chose que j'ai entendue dans un autre appartement, c'est quand on dit à des locataires: ah oui, mais vous ne devriez pas faire sécher votre linge chez vous. On m'explique un jour comment on fait sécher son linge si on ne le fait pas le sécher à la maison. Là, en plus, quand on a dit ça à ce locataire, on était en plein mois de février. Donc, quand on se rappelle l'hiver 2023-2024 en Lorraine, on se dit que si on n'avait pas fait sécher notre linge en intérieur, eh ben, on n'était pas prêt d'avoir du linge qui était sec, parce que c'était un hiver pourri. Donc, voilà. Donc, on ne peut pas le faire sécher ailleurs. Même quand il fait beau, même en HLM, on a interdiction de faire sécher du linge dehors, c'est interdit. Alors, quelquefois, on le fait, on le rentre vite, parce que de toute façon, on peut craindre aussi de se prendre quelque chose sur notre linge qui est propre. Donc, on ne peut pas le faire sécher dehors. On n'a pas forcément non plus les moyens pour avoir un sèche-linge.
Oui, mais alors le sèche-linge, je voulais justement en parler. Il faut faire attention, parce qu'il faut que le conduit d'évacuation de l'humidité, il parte à l'extérieur. Hein.
Qu'il parte dehors.
Bah oui.
Donc, quand on a en plus une salle de bain qui est borgne, eh ben, c'est pas dans la salle de bain qu'il faut le mettre. Il faut le mettre dans la cuisine et rebelote quand on a des petites cuisines. On peut pas tout mettre non plus. Donc voilà, ça, je veux vraiment qu'on arrête. Pour moi, c'est pas possible, quoi. C'est inqualifiable. Qu'on dise aux personnes, il n'y a pas de logement, je veux bien, mais qu'on leur dise, ne faites pas à manger, ne vous lavez pas et ne faites pas sécher votre linge chez vous, pour moi, c'est pas entendable. Donc, à bon entendeur, salut pour les bailleurs sociaux et les CCAS, parce que là, pour les premières personnes, c'est les deux qui leur ont dit, hein, et le CCAS et le bailleur social. Concernant toute cette qualité de l'air, etc., on peut se rendre aussi, alors il y a le site de la CLCV où il y a des infos, et puis il y a aussi le site de Qualitel, Qualitel, où il y a plein d'informations sur ça. Et puis, ah oui, moi je voulais aussi parler de ça.
On va peut-être faire une petite pause musicale.
Ouais, mais on va terminer juste avant avec le journal copropriétaire. On parle des fois de cadre de ville, on va parler de copropriétaire. C'est le journal des copropriétaires qui adhèrent en tant que tel. Et c'est un document beaucoup plus technique qui est un petit peu plus abordable, parce que maintenant on y trouve quelques photos. Et donc c'est dans ce journal qu'il y avait donc un petit article concernant les moisissures en appartement, et que nous, sujet que nous avons développé pour le faire aujourd'hui, donc sur RCN.
C'est une adhésion à part, ça, pour les copropriétaires.
Voilà, c'est une adhésion qui est un petit peu plus chère, parce que les personnes reçoivent et cadre de vie et ce journal copropriétaire. Mais voilà, là, par exemple, il y a tout un dossier sur la loi Habitat dégradé.
Il y a quelque chose qui est assez intéressant et important, je crois avoir vu.
C'est plus loin.
C'est dans le copropriétaire.
Voilà, il y a le
guide sur le syndic bénévole voilà. qui a été mis à jour.
Voilà.
Et je pense que ça, c'est aussi intéressant pour les copropriétaires.
Pour les copropriétaires. On nous dit, il s'est coécrit par le LANIL et la CLCV. Donc, c'est aussi un travail de la CLCV, donc sous la tutelle de l'ANA. Donc, ce guide du syndic bénévole donc, a été mis à jour et on peut le télécharger gratuitement sur donc, le site de la CLCV, onglet logement, rubrique copropriétaire.
Il est bien complet, hein, il fait plus de 200 pages.
Voilà, donc ça fait de la lecture, on en a jusqu'à la fin de l'année, quoi, parce que... Voilà, donc on va, voilà, ça, je vais t'écouter et on va faire une petite pause.
Une petite pause musicale.
Ouais, c'est pareil, c'est juste pour l'été, hein, c'est San Severino et il nous propose de maigrir.
Avant, j'avais une belle peau, j'étais mince et fier comme un pied de micro. Torse nu pour un oui pour un non, quand le soleil fait ses apparitions. Maigrir à tout prix, devenir fin et lancé, rester dans les normes, éviter les débordements. Comment devenir fin sans devenir fou? Comment devenir fin sans devenir fou? Devenir fin sans devenir fou? Comment devenir fin sans devenir en chemise, les jours de détente. On pouvait croire que j'étais le Mike Brandt, à qui tout allait, qui se souciait de rien. Je mettais du 36, ça m'allait bien. Maigrir à tout prix, devenir fin et lancer, rester dans les normes, éviter les débordements. Comment devenir fin sans devenir fou? 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 J'étais mince comme un pied de micro, brillant et creux comme un dobro fin, comme une corde de mie, triste comme un film de Jacques Demy ou Catherine Deneuve. Fais un régime, elle voudrait séduire même fait slim, mais BB King fou de rage va s'opposer à leur mariage. Comment devenir fin sans devenir fou? Comment devenir fin sans devenir fou? Comment devenir fin sans devenir fou? Devenir fin sans devenir. Je montrais mon corps d'Apollo, très à l'aise dans toutes les situations, tu vois, bien là. Dans les grands magasins, j'essayais des maillots de bain sans jamais tirer les rideaux.
Quotidien sur RCN.
Sylvie Gruy, Christian Saquet.
Voilà Christian, donc voilà, c'était une proposition, maigrir, je sais pas, c'est peut-être parce que c'est bientôt l'été, voilà, pour aller se mettre sur la
comme
plage.
Tu disais,
et tout.
Comme tu disais, San Severino, combien tu disais de kilos?
De quoi? Je ne parle pas de
Ah, tu parlais de taille.
Voilà, non, il parlait qu'il faisait du 36 un jour.
D'accord.
J'ai du mal à l'imaginer, mais bon.
Alors.
Comme à chaque fin d'émission, quand on arrive comme là sur la fin, pas encore tout de suite, hein, mais bon, tu vas nous redonner les contacts, les horaires de permanence pour nos auditeurs, pour les personnes qui voudraient nous voir, pour que ce soit pour un litige, une question, un renseignement, ou pour venir faire du bénévolat à la CLCV.
Alors, nos jours de permanence sont les suivants.
Alors,
permanence sans rendez-vous.
Ouais.
Le mardi de 9h30 à 12h, de 14h30 à 17h, le mercredi de 14h30 à 17h, le jeudi de 9h30 à midi, et de 14h30 à 17h.
Voilà. Ça, les personnes, par exemple, qui n'auraient pas noté, on retrouve nos horaires de permanence sur notre page Facebook, mais également sur le site de la CLCV nationale, où il y a une rubrique pour chercher les associations locales, et il y a toutes les informations de la CLCV Malzéville-Saint-Max.
Donc, pour venir là, il n'y a pas de problème, c'est sans rendez-vous.
Voilà.
Par contre, il y a des gens qui ne peuvent pas venir dans ces créneaux horaires, donc on peut les recevoir. Et puis on peut même aussi parfois être dans l'obligation d'aller les voir parce qu'il y a des personnes qui sont à mobilité réduite,
voilà.
Et donc on peut aller à domicile.
Ça nous est arrivé d'aller chez des personnes.
Donc pour cela, il faut nous téléphoner au 03 83 29 10 96.
Mm-hmm.
En téléphonant, il faut donner toutes ces informations, ouais. C'est-à-dire toutes les coordonnées, le téléphone, et puis aussi... leur adresse, autant que possible.
On peut le faire aussi par email.
On peut le faire aussi par email. Donc là, c'est sur malzéville@clcv.org.
Mm-hmm.
Les gens qui doivent venir nous voir, il faut qu'ils prennent la ligne 13 en direction de Domartemont et arrêter. L'arrêt pour venir nous voir, c'est l'arrêt Alexandre Ier.
Voilà. Ils peuvent également venir nous voir en voiture, parce qu'il y a un beau parking.
Il y a un grand parking. C'est des places gratuites.
C'est des places gratuites.
C'est au 60, voilà. Rue du Colonel Drian. C'est très simple. Quand vous arrivez rue du Colonel Drian, à la hauteur du 60, nous sommes en face de la station de carburant.
Voilà.
Donc, c'est un point de repère.
Voilà. Et c'est surtout à Malzéville.
Et c'est à Malzéville.
Parce que si tu ne donnes pas la ville, la commune sur laquelle
mais
on se trouve...
Mais insiste bien sur Malzéville, ce n'est pas Maxéville.
Non, hein? On est sur la rive droite, nous, de la Meurthe.
Alors, ils peuvent aussi prendre contact avec nous par la page Facebook.
Oui, par la page Facebook. Alors, la page Facebook de la CLC Malzéville-Saint-Max s'appelle tout simplement CLCV Malzéville-Saint-Max. Alors, dessus, on retrouve, par exemple, toutes nos coordonnées, téléphone, mail, etc. On retrouve également notre adresse postale, l'adresse donc de nos bureaux. On retrouve également nos permanences. On met sur Facebook, par exemple, quand exceptionnellement on ne peut pas tenir notre permanence, on l'indique sur Facebook. Sur Facebook, on partage certaines informations de notre confédération. Quand on estime que ça vaut le coup d'être partagé en local, on va partager aussi des informations d'autres structures, déjà d'autres structures CLCV. On va partager également des informations de l'INC, on va partager des publications de la préfecture de Meurthe-et-Moselle. Enfin voilà, selon ce qu'on estime pertinent d'être partagé, on fait aussi nos publications. Personnel, on a des publications personnelles, telles que les publications que l'on fait pour l'émission de radio. Et puis on partage aussi nos retours de terrain quand on fait des animations, des barreaux et autres, où on va faire des photos et où on partage sur Facebook.
Il y a quelque chose
que... Et puis, j'allais oublier, parce que tout à l'heure, avant de parler de Facebook, tu parlais de comment nous contacter. On peut aussi, du coup, nous contacter par Messenger.
Oui.
Voilà, Facebook.
Ça.
Voilà, ça c'est Facebook, je réponds.
Il y a quelque chose qu'on oublie de dire aussi, c'est que quand les enfants sont en vacances scolaires, il n'y a pas de permanence.
Voilà, nous on fait aussi
on
vacances.
On oublie de le dire.
Voilà, enfin on fait vacances. On fait vacances de permanence sans rendez-vous.
Voilà.
Sur tout ça.
Parce qu'on peut quand même, pendant cette période-là, nous contacter.
Voilà. Si on est présent, parce que ça arrive aussi quand même qu'on parte un petit peu en vacances. De temps en temps, il faut qu'on aille se ressourcer quelque part. Mais si vraiment il y a une urgence, que nous sommes présents. Parce que nous, ça nous permet aussi, quand il y a des vacances, de pouvoir faire autre chose que des permanences, parce qu'il y a autre chose à faire dans une assos que...
Il n'y a pas que les permanences.
Il n'y a pas que l'accueil en permanence.
Non, il y a le traitement des dossiers.
Il y a aussi le mettre à jour de la documentation.
Et à ce sujet, justement, le traitement des dossiers, on est à la recherche de bénévoles.
Voilà, on est à la recherche de bénévoles. Alors, les qualités, parce qu'on se dit quelquefois, mais j'ai jamais fait de juridique et je ne vais pas savoir. D'abord, pour faire de ces permanences, on n'est jamais tout seul, quoi. Enfin, je veux dire, la CLCV, c'est une équipe. Il y a une équipe sur place, à Malzéville. Quand il y a vraiment des dossiers qui sont plus complexes, on a aussi le soutien de notre confédération avec des juristes. Et puis, il y a aussi, quand même, la plupart du temps, quand même, nos dossiers, c'est... Les dossiers litiges que l'on traite, c'est pas seulement des dossiers juridiques, quoi. Il y a, quand on vérifie des factures auprès d'un fournisseur d'énergie, on n'est pas seulement sur du juridique. On est déjà sur regarder, exploiter les pièces.
On est sur du pratique. Hein.
Voilà, on est sur exploiter les factures, etc. Vérifier si les factures sont correctes, si on n'a pas demandé deux fois la même chose, etc. Quoi. Donc, il n'y a pas que du juridique et il n'y a pas non plus vraiment toujours besoin d'une formation. Et en plus, il y a des possibilités de formation à la CLCV, notamment depuis, on a vraiment mis ça en place, la Confédération a mis ça en place depuis la période Covid, il y a énormément de webinaires. Il y a minimum un webinaire par mois, notamment sur le logement, mais il y en a aussi sur l'alimentation, sur l'environnement, parce qu'il y en a eu un qui n'y a pas très longtemps sur l'eau. Voilà, donc il y a un tas de webinaires qui sont là pour nous former. Voilà. Quoi d'autre ?
Tu en parlais de bénévoles.
Oui, je parlais de bénévoles. Donc, on est toujours à la recherche de notre trésorier, donc on recherche quelqu'un pour s'occuper de la trésorerie. Donc la trésorerie dans une assos, c'est le côté politique du trésorier, pour aussi présenter même les comptes sous certains angles, etc. Et puis c'est aussi le côté comptabilité, quoi. Donc on a un logiciel sur lequel on va saisir toutes les opérations comptables. Donc c'est cette personne-là que l'on cherche également. Et puis il y a des personnes qu'on va chercher aussi. On cherche aussi des bénévoles pour faire notre émission. Pour participer à notre émission, on cherche également des bénévoles pour nos bars à eau. Parce que si on veut se déployer, plus on fait de bars à eau et plus il faut de monde. Parce que par exemple, l'année dernière, quand on a participé pour un bar à eau à Jardin de Vie, Jardin de Ville, c'était du samedi matin 7h où on y était pour installer notre stand, etc. Parce qu'après, il fallait quitter les lieux. Jusque le lendemain à 19h où on a repris nos stands, rangé tout. Donc, il faut bien s'imaginer que même s'il y a des fous pour faire les deux journées, des bénévoles, il en faut plusieurs qui se suivent si on ne veut pas les épuiser et les dégoûter et qu'ils ne reviennent pas la fois suivante, quoi. Donc on cherche aussi, et là c'est pareil, les bars à eau, c'est pas non plus, c'est pas une grande complexité, et on accompagne aussi les personnes pour qu'elles soient en capacité de le faire. C'est surtout ça aussi qui est important.
De toute façon, tout le monde a des compétences.
Voilà. Et puis, il y a les choses qui existent déjà. Il peut y avoir aussi des personnes qui vont avoir envie, qui se disent, peut-être qu'à la CLCV, on pourrait faire ça. Mais ils peuvent aussi venir nous en parler, nous faire la proposition, de dire, moi, dans votre association, j'aimerais bien faire telle animation, telle réunion de sensibilisation, ou mettre en place, une conférence sur tel ou tel sujet. Il y a plein de choses qui sont possibles. On peut y trouver son bonheur. Il suffit de venir nous voir et nous faire la proposition. Voilà. Donc, je pense que sur les coordonnées, tout ça, des informations sur notre association, on a fait le tour. Donc, on a parlé du journal donc copropriétaire. Donc, il y a le pendant pour les adhérents lambda qui est le cadre de vie. Et pareil, il ne faut pas attendre d'avoir un problème en copropriété pour adhérer. C'est aussi un lieu pour s'informer, pour se former, la CLCV. Et en plus, on peut aussi, quand on est, par exemple, copropriétaire, se rendre également au salon de la copropriété auquel la CLCV participe tous les ans. C'est à Paris et il y a des possibilités d'entrée gratuite. Est-ce qu'on va pouvoir dire au revoir à nos auditeurs, aux auditeurs de,
bien sûr,
de RCN ?
Et à la prochaine fois.
On se dit à la prochaine fois. On dit au revoir à Jean-Luc, à la technique, sans qui rien ne serait possible. Je te dis au revoir, Christian, et je dis à bientôt à nos auditeurs.
À bientôt.